La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, en ce mois de mars, nous allons suivre le temps liturgique du carême en revenant sur les œuvres de Jacques et Raissa Maritain autour de la contemplation et de l'oraison. En 1925, De la vie d'oraison est publié et c'est un tout petit recueil qui réfléchit sur la vie spirituelle. De la vie d'oraison est intitulé au premier chapitre « De la vie intellectuelle et de l'oraison ». Pourquoi ? Parce que pour saint Thomas d'Aquin, la somme n'aurait pas été possible sans les heures de prière, sans cette union profonde de l'âme au Christ. De la vie d'oraison commence ainsi. En nous aussi, il faut que l'amour procède du Verbe, c'est-à-dire de la possession spirituelle de la vérité dans la foi. Tout est dit. Pour Jacques et Raissa Maritain, thomistiser, malheur à moi si je ne thomistise pas, est leur slogan, leur mot d'ordre après leur conversion, thomistiser ne peut se faire sans la foi et l'intellect. Comment ? En passant des heures dans l'oraison. Qu'est-ce que l'oraison ? L'oraison n'est pas l'adoration du Saint-Sacrement. L'adoration du Saint-Sacrement est une autre forme. Ce n'est pas non plus une lectio divina, c'est-à-dire une lecture de l'Évangile, de la Bible, lente, goûtée, avec quatre dimensions de lecture. Ce n'est pas non plus une promenade romantique pieuse. C'est un silence dans lequel l'Esprit-Saint est à l'œuvre. À partir du moment où on a fait le signe de croix, on peut s'aider d'un petit mot, un mot du pater, un petit verset d'évangile. L'âme descend dans les profondeurs, se rend en quelque sorte terre arable, et c'est l'Esprit-Saint qui est à l'œuvre. Cette oraison est développée par Jacques et Raissa Maritain, puisque pour eux, la contemplation sur les chemins, c'est une formule de Raissa, va être un mot d'ordre ou un mot d'espoir pour l'avenir. Et cette contemplation sur les chemins concerne tout le peuple de Dieu, clair, religieux et laïque. Et corrélativement à cette contemplation sur les chemins est développé ce qu'on appelle le petit troupeau. C'est d'ailleurs ce que eux-mêmes vont vivre puisqu'ils vivent à trois, Raissa et Jacques, et Vera Oumansoff, la sœur de Raissa, qui va consacrer sa vie à être une âme à l'intérieur de ce petit trio, une secrétaire. Quand on lit les correspondances entre Jacques et Vladimir Gika, par exemple, on se rend compte qu'en une nuit, Vera va recopier 20 fois un texte. Il n'y a pas de photocopieuse et c'est elle qui fait la photocopieuse. Elle fait aussi les repas, même si Jacques est un excellent cuisinier. Du coup, ce petit troupeau, cette petite cellule déjà monastique qui vit d'une règle précise, surtout juste après leur conversion, va s'appuyer sur cette oraison, sur cette contemplation sur les chemins. Poussons un peu plus en avant le texte. De même que tout ce qui est dans le Verbe se retrouve dans le Saint-Esprit, il faut que tout ce qui est dans notre connaissance passe dans l'affection par l'amour et ne s'arrête qu'en lui. Que l'amour procède de la vérité et que la connaissance fructifie en amour. Notre oraison n'est pas ce qu'elle doit être si nous manquons à l'une ou à l'autre de ces deux conditions. Et par oraison, nous n'entendons pas autre chose que la prière. Et avant tout, celle qui se fait dans le secret du cœur, en tant qu'elle est ordonnée à la contemplation et à l'union à Dieu. On le voit, amour et vérité, connaissance et amour se font à partir de l'oraison. Et cette oraison est déjà une vision de Dieu, au moins en intention, si ce n'est pas de facto, puisque c'est ce à quoi nous sommes appelés dans la patrie, c'est-à-dire après notre mort. Cette réflexion sur l'oraison est un fil d'Ariane pour comprendre non seulement l'œuvre philosophique des Maritains, mais leur vie. Et je vais aller au-delà du temps, donc après la Deuxième Guerre mondiale, en 1962, quand Jacques Maritain, veuf, publie « Notes sur le pater » écrit par Raïssa Maritain. Il s'agit d'un petit livret fait justement pour aider à cette contemplation sur les chemins, un petit viatique, un vade-mecum si vous voulez, pour réfléchir, contempler, méditer sur la prière du Notre Père laissée par le Christ lui-même. Et voilà ce qu'écrit Raïssa à la fin de ce petit livre. Qui oserait sans trembler et sans invoquer les grâces d'en haut lever les yeux vers ce qu'ont pu être les heures d'inimaginable recueillement où le Verbe incarné faisait taire toute chose en lui pour n'avoir plus son âme occupée qu'à pâtir dans l'amour et sous la lumière de la vision, la gloire de son Père et de sa propre divinité et de l'Esprit-Saint. Les théologiens nous disent qu'à la vision béatifique, où l'essence divine se fait saisir par l'intellect créé, est jointe chez les bienheureux l'expérience d'amour due au don du Saint-Esprit. C'est de cette façon qu'on peut croire que lorsqu'il entrait dans une oraison supérieure à tout concept, le Christ contemplait Dieu et appelait sur les hommes la miséricorde divine. Et sans doute sa contemplation se tournait-elle aussi dans les larmes du don de science vers cette pauvre humanité dont il avait mission de porter sur lui les langueurs. Raïssa lit le Pater comme la prière donnée par le Christ, mais surtout comme la prière du Christ lui-même avec ses 7 demandes qui comportent finalement une relation du Christ à l'Esprit-Saint et à sa filiation au Père. La vie d'oraison est aussi un vœu d'oraison. Dans la période de Meudon, de 1924 à 1939, Jacques et Raïssa Maritain, qui résident à Meudon, vont recevoir l'avant-garde artistique, l'avant-garde russe, et vont instruire beaucoup de chrétiens autour de saint Thomas d'Aquin dans les semaines thomistes, qui vont être présidées par le père Garrigou Lagrange. Les messes seront célébrées par l'un ou l'autre, souvent par leur ami donc Vladimir Gika, dont j'ai parlé en début d'émission. Et petit à petit, autour de cette communauté, un vœu d'oraison va être proposé. Nous en lirons quelques extraits.
Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Quel est donc ce vœu d'horizon ? Un tel vœu, strictement privé, n'avait rien à voir avec les vœux de religion et l'état de vie propre aux religieux. Les laïcs restaient laïcs. C'est pourquoi il n'était pas nécessaire de soumettre nos statuts à l'autorité ecclésiastique. Et la seule chose requise était que les directeurs d'études fussent agréés par l'ordinaire. Mais si le vœu d'horizon n'avait rien à voir avec les vœux de religion, il avait beaucoup à faire avec le désir qui existe chez un nombre de laïcs, plus grand qu'on ne croit, quelquefois, de se donner entièrement au Christ et de faire primer sur toutes leurs activités la recherche de la perfection chrétienne, bien qu'ils restent engagés dans le siècle. Tendre à la perfection de la charité n'est-il pas prescrit à tous ? C'est ainsi que dans le carnet de notes, Jacques Maritain reporte à la fin des réflexions sur le cercle d'études et les retraites annuelles de Meudon. Il continue ainsi. À la différence des trois vœux de perfection, les vœux privés dont je parle ne feraient sortir en absolument rien ceux qui les prononcent de leur condition de laïc. Et en vérité, l'aspiration cruciale que l'on constate aujourd'hui dans le peuple fidèle n'est-elle pas l'aspiration de beaucoup d'âmes à avancer vers la perfection de la vie humaine sans pour cela renoncer en aucune façon à l'état laïc, à ses engagements et à ses diverses propriétés. Le problème, dès lors, n'est-il pas d'aider ces âmes à satisfaire une telle aspiration dans leur vie laïque elle-même ? Et s'il est vrai que la condition normale de la vie laïque est le mariage, normal est en italique, n'est-ce pas aux gens mariés comme aux célibataires qu'il convient par conséquent de s'adresser ? C'est ainsi que le vœu d'horizon est un vœu qui marquera toute la vie des Maritains. Si nous allons un peu plus en avant, dans un autre recueil, « Liturgie et contemplation », publié en 1959 et ainsi préfacé par celui qui sera le cardinal Journé, voici ce qu'il écrit. La seconde partie traite de la contemplation. La perfection de l'amour à laquelle chacun doit tendre était liée en fait à la contemplation silencieuse. L'opuscule de la vie d'horizon apportait à cette question une réponse profonde qui résiste à la critique et qu'on peut croire définitive. Après avoir marqué que la coupure principale doit se faire dans la vie spirituelle entre la vie commune qui reste sous la dominante des vertus morales infuses et la vie mystique qui passe sous la dominante des dons du Saint-Esprit, on précisait, et c'est ainsi qu'on expliquait les textes célèbres de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix, que la contemplation, inséparable de l'exercice intense de la charité et des dons, peut être soit typique, quand prédominent les dons d'intelligence et de sagesse, soit masquée, quand prédominent les dons actifs. C'est dans la perspective de ces vues que la question a été reprise et approfondie et que les récentes et savantes études du dictionnaire de spiritualité sur la contemplation ont pu être discutées et mises à profit. Ces clarifications de Charles Journé, qui est un grand ami de Jacques et de Raïssa Maritain, sont importantes parce que le débat autour de la liturgie est celui que nous connaissons toujours, finalement, après Vatican II, et peut-être un débat autour de la vie théologale ou de la vie morale. Jacques Maritain va insister sur cette différence. Les vertus théologales sont celles qui nous mettent tout de suite en présence de Dieu dans la vie unitive, qui demande ce qu'on appelle aussi la vie purgative. Et l'horizon, par la cèse qu'elle nécessite, est en elle-même déjà une vie purgative qui permet ces différentes étapes ou ces différentes demeures, ou ces différents châteaux, appelez-les comme vous voulez, selon ce que vous lisez Saint Thérèse ou Saint Jean de la Croix, qui permet cette union à Dieu. Et cette vie théologale est celle que nous devons déjà mettre en chemin, en route, pour en vivre, parce qu'elle durera après notre mort. Et ce débat est important, peut-être pour nous qui vivons une période de confinement. Est-il nécessaire de se battre pour des messes en vidéo, en Zoom Est-ce qu'il n'y a pas un appel à une intériorité et à vivre de manière théologale par l'horizon ? C'est un débat important, mais qui nécessite une compréhension forte. J'ai prononcé le mot d'ascèse, j'ai prononcé le mot de vie purgative, c'est-à-dire d'une vie qui demande la croix, qui demande de suivre le Vendredi Saint et qui nécessite de passer par ce chemin étroit et de ne pas délaisser finalement une part de souffrance. La vie des Maritains a été traversée par la souffrance, ne serait-ce que par les maladies de Raïssa, donc toujours cette pénibilité de la maladie dans le quotidien. L'antisémitisme, Raïssa et Vera sont juives. Maritain a été un des premiers intellectuels à écrire en 1938 sur l'antisémitisme, avec ce titre « Impossible antisémitisme ». On s'est moqué de lui, on l'a appelé Jacob. Je crois qu'ils ont souffert de l'exil à New York. Même si Raïssa écrit les grandes amitiés sont marquées d'une certaine nostalgie d'un temps à jamais révolu. Et puis il y aura l'exil américain après l'ambassade romaine. Maritain aurait pu revenir en France, au Collège de France, et non. Camus, Sartre étant en haut du pavé philosophique, avait pignon sur rue, Maritain repartira aux États-Unis. Et cette traversée finalement de leur vie, toujours marquée par des incompréhensions, est une réponse au mystère du mal. Maritain écrira un petit opuscule sur le mal lors de son passage, de sa présence à Toulouse, et nous allons revenir là-dessus.
Ce qui m'a bouleversé en lisant le livre de Jacques Maritain, Dieu et la permission du mal, c'est le plaidoyer si profond de Jacques pour l'innocence de Dieu. Dieu permet le mal parce qu'il permet la liberté. Il ne permet pas le mal comme mal. C'est pas qu'il a le mal moral, il ne le permet pas en tant que mal. Simplement, il le permet par la conséquence du fait qu'il veut permettre que l'homme soit libre. Parce que s'il lui enlève la liberté, il lui enlève sa dignité de créature spirituelle. Donc ça devient à ce moment-là un organigramme.
Si les gens savaient que Dieu souffre avec nous, et beaucoup plus que nous, de tout le mal qui ravage la terre, bien des choses changeraient sans doute, et bien des âmes seraient libérées. Alors cesseraient peut-être d'être fermés et privés de sens pour elles, les mots qui leur disent que dans cette miséricorde où nous est si chère, même si elle ne peut être nommée que métaphoriquement, la compassion par laquelle il nous prend dans son cœur et y fait sienne notre misère, il a envoyé son Fils, factus homo, fait homme, souffrir et mourir pour nous.
Les Toulousains ont peut-être connu la voix du père Jean-Miguel Garrigue, théologien éminent. Et Maritain répond à ce mystère du mal dans « De la grâce et de l'humanité de Jésus », opuscule publié en 1967, avec un texte que je vous lis. « Dans sa réalité nue, la croix elle-même n'est pas douce, non. Ni les clous, ni la lance, ni la sueur de sang, ni le Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? La croix est dure, abominablement dure. En raison de notre faiblesse, cette dureté peut nous rester plus ou moins longtemps, plus ou moins dissimulée. Un jour arrive où il faut bien qu'elle apparaisse. Et alors notre esprit est comme frappé d'égarement. Tous nos os ont été brisés, notre être saccagé, tout s'efface de ce que nous avions cru comprendre. Une main implacable a passé, qui nous a jetés vivants dans l'abîme de la mort. La voilà, la douce croix. Ce n'est rien de dire qu'elle nous met en face de l'intolérable. Il faut aller plus loin, reconnaître que la croix, quand elle se montre toute nue, telle qu'elle est, c'est l'inadmissible qu'elle nous impose. Est-il admissible que des milliers d'êtres faits à l'image de Dieu périssent misérablement dans des chambres à gaz et des wagons plombés, écrasés comme de la vermine par d'autres êtres humains ? Est-il admissible qu'il y ait des hommes qui meurent de faim, des enfants qui soient livrés à la prostitution, des âmes immortelles et telle ou telle dont vous avez pu entrevoir la beauté qui courent en foule vers l'enfer ? Est-ce que Rachel peut admettre que ses fils lui soient pris par la mort ? Et tant de mères dans le pays de Bethléem, dont Hérode a massacré les nouveau-nés. Nous sommes trop futiles, cependant, pour savoir ce qu'est la douleur des autres. Mais maintenant, quand c'est nous-mêmes qui sommes atteints, alors les écailles nous tombent des yeux. Nous voyons tout à coup que l'inadmissible emplit le monde et que la mort, fût-ce d'un seul homme, parce que le principe immanent de sa vie est un immortel esprit, et que les larmes, fût-ce d'un seul innocent parce qu'il est innocent, sont en réalité des choses que la pensée se refuse à admettre. Elles ne sont pas seulement intolérables à la sensibilité, elles sont inadmissibles à l'esprit. Heureux, si, quand nous sommes vraiment frappés nous-mêmes, nous ne nous sentons pas sur le point de dire à Dieu « Puisque votre amour pour moi me traite de cette façon-là, eh bien, mon amour pour vous vous rendra la pareille. » Et rien n'est plus facile, car vous êtes le plus vulnérable des êtres. Et puis, une vérité se fait jour en nous. Si la croix nous impose ainsi l'inadmissible, c'est d'abord parce que la liberté de l'homme a imposé à Dieu ce qui est inadmissible à Dieu, le péché, le mal de Dieu. Et Dieu, non pour se venger, mais pour faire miséricorde aux hommes et pour me racheter moi-même, a envoyé son Fils parmi nous, pour lui faire souffrir, en toute plénitude, un certain jour où tous les temps sont rassemblés, ce qui est inadmissible à l'homme. L'inadmissible auquel, depuis la chute, il arrive un jour à chacun de se heurter au détour du chemin. Et ce que le Christ a souffert le vendredi saint, c'est un rayon, un des innombrables rayons de cela qui atteint maintenant notre chair et est imposé, ou, pour parler plus vraiment, proposé à notre cœur. Cette proposition de l'inadmissible, elle est transcendée dans l'horizon. Parce que celui qui fait horizon ne fait pas horizon pour lui, mais pour le monde entier. Une âme qui s'élève, élève le monde entier, comme s'il y avait une balance Roberval avec deux plateaux et puis un petit plomb en mercure, un métal d'une densité très grande, donc très lourde, qui permettrait de faire lever l'autre plateau de la balance. Une âme qui s'abîme en quelque sorte dans l'horizon, avec régularité, avec constance, sans ce désert, dans ce combat, c'est une âme qui élève toute l'humanité et qui prend sur elle une part de la croix. Elle ne cherche pas les consolations. Elle ne cherche pas l'union au Christ tangible. Maritain parlait de contemplation cachée. Pour le laïc actif plongé dans le monde, il n'a peut-être pas conscience qu'il va prier au moment où il va agir. Et son action sera tout imprégnée de sa contemplation et l'action naîtra même de sa contemplation par surabondance. C'est donc cette véritable théologie de l'horizon qui va animer les Maritains. Et avant de nous retrouver la semaine prochaine, je vais terminer sur une évocation du silence. Raïssa et Jacques ont bien réfléchi sur le silence, puisqu'ils étaient en contact avec beaucoup de poètes pour qui la poésie était une mystique. Et Raïssa a eu ce mot très juste. Elle dit « Le silence conduit à la parole pour un poète ». Mais le silence conduit au silence pour un mystique. À la semaine prochaine.